que t'as eu 47 chats, Olivia ?
Quand j'étais petite, que j'habitais à la campagne, à force de vivre avec les chats en grandissant, au total, j'en ai eu 47.
Le comportement des chats t'intéresse, c'est ça ?
Oui, c'est ça, parce que à force d'en avoir, les chats, c'est devenu une passion. J'ai du mal à vivre sans un chat chez moi. Là, je suis en appartement, j'en ai un et je peux pas vivre sans mon chat. Et donc, à force de vivre avec les chats, j'ai fini par observer leur comportement et je demande toujours plus, toujours à plus savoir sur les chats, toujours à connaître des informations en plus. Moi, j'accepte toutes les informations sur les chats et quand quelqu'un me parle des chats, je peux en parler pendant des heures et des heures. Leur comportement, c'est quelque chose de très, très assez compliqué, surtout au niveau hiérarchique. Leur façon de vivre, c'est aussi proche que les lions, donc c'est très compliqué. Moi, j'adore parler de ça.
Tu peux nous expliquer un petit peu, aussi proche des lions?
Oui, proche des lions. Malgré qu'ils ont beaucoup de différences avec les lions, surtout au niveau apparence, c'est vrai. Sinon, leur façon de vivre est assez proche des lions et certains points de leur comportement, certains gestes qu'ils font, on peut voir la réplique exacte de ce que ferait un lion.
Dans quel cas, par exemple?
Ça peut être au niveau hiérarchique, c'est-à-dire que bon, chez les lions, il y a un mâle dominant et il y en a aussi un chez les chats. Surtout chez les chats de gouttière errant, ils vivent pratiquement de la même manière, avec quelques différences. Mais c'est-à-dire qu'ils ont leur territoire, qu'ils délimitent eux-mêmes par leurs odeurs, tout ça. Ils ont le mâle dominant, qu'on ne voit pas toujours sur le territoire, mais il est là, et les autres chats savent qu'il est là.
Un autre exemple de lien avec le comportement des lions?
C'est-à-dire que les chats dorment autant que les lions. Les lions, ils dorment le matin et ils dorment toute l'après-midi. Enfin, les lions, c'est parce qu'il fait chaud qu'ils dorment, ils ne peuvent pas faire trop d'efforts physiques. Et la nuit, ils sont en général plus actifs. Chez les chats, seulement chez les chats de gouttière, parce que les chats d'appartement ont d'autres habitudes. Chez les chats de gouttière, ils dorment également toute l'après-midi. Et ils savent très bien à quelle heure ils doivent manger, en général. Les chats d'appartement, c'est plus compliqué. C'est que les chats d'appartement, en fait, moi par exemple avec le mien, ils dorment toute l'après-midi. Le matin, ils jouent soit tout seul, soit avec mes frères ou moi quand je suis là. Et la nuit, bah, il sait très bien que c'est à l'heure où on dort. Vu que nous, on dort, nous, ses maîtres, on dort, bah, lui, il dort aussi. Il a 16 heures pour manger, il a 16 heures pour sortir aller aux toilettes.
Par contre, peut-être qu'il y a certains comportements qui sont propres aux chats.
Oui, c'est sûr. Comme bon, tout à l'heure, je disais qu'au niveau hiérarchique, il y avait beaucoup de choses qui sont pareilles avec le lion. Il y a aussi des comportements propres à eux. Surtout comme par exemple, quand un chat étranger entre sur le territoire d'un mâle dominant, là, ça se passe pas vraiment pareil. En général, pour le chat étranger, il doit y avoir à peu près 3 options pour lui. Soit il rencontre le mâle dominant et il y a, comme qui dirait, des présentations. Quelqu'un qui observe bien leur comportement, il peut voir qu'il y a une vraie communication entre eux. Nous, on n'entend aucun son, mais il y a une vraie communication. Leur mâchoire bouge, leur ventre bouge. J'ai eu l'occasion de le voir il n'y a pas longtemps avec mon chat et je l'ai fait rencontrer d'autres chats. Et pour moi, ça a été fascinant de voir ça. Parce qu'on voit leur façon de discuter, leur façon de communiquer entre eux. C'est très intéressant pour ce comportement-là. Soit le chat rencontre le mâle dominant et il se présente. Le mâle dominant, ensuite, il décidera si le chat peut rester ou s'il doit partir. S'il doit partir, en général, le mâle dominant deviendra agressif. Il pourrait même décider de le tuer, ça arrive. Sinon, comme autre option, le chat pourrait ne pas croiser le mâle dominant. Ça peut arriver, le mâle dominant peut être parti. Et si le chat veut rester sur ce territoire, il peut s'accoupler avec l'une des femelles. Il se peut qu'il n'y ait qu'une femelle sur un seul territoire. Qu'une femelle qui se soit accouplée plusieurs fois, ça peut arriver. Et sinon, donc le chat, il peut aussi, pour se faire accepter sur le territoire, il peut décider de chasser un autre mâle du territoire, mais en général plus jeune. Un chat étranger ne se déciderait pas à chasser un mâle plus vieux, parce que c'est aussi une question d'hiérarchie, c'est que le chat s'en prend à plus jeune que lui. Chez les humains, on dit qu'on ne s'en prend pas à plus jeune que soi, mais chez les chats, c'est ça, c'est comme ça.
Et ça, tu l'as appris par observation, mais autrement, tu as fait des lectures, comment tu as acquis toutes ces connaissances sur les chats?
C'est déjà par l'observation de mes chats, et aussi en regardant à la télé le comportement de tous les félins. J'ai toujours regardé beaucoup de documentaires, que ce soit sur les lions, les chats domestiques, les chats de race, les panthères, tous les grands félins, même les petits. J'ai aussi lu des livres, j'ai acheté des DVD, je me suis toujours bien informée sur les chats. Si jamais un point de leur comportement, je n'arrivais pas à le comprendre, eh bien je cherchais dans un livre ou à la télé, soit Internet, toujours.
Et tu as une référence d'un auteur ou d'un scientifique précis?
J'ai plutôt la référence d'un caméraman, on pourrait dire qu'il se met en danger. C'est-à-dire qu'il a fait des choses que j'ai trouvées extraordinaires, j'ai toujours été impressionnée. C'est le caméraman Mike Heard, c'est le premier homme sur Terre à avoir réussi à se faire accepter dans un clan de lions. Et c'est aussi le premier homme sur Terre à avoir filmé de très près des tigres du Bengale. Pour moi, c'est une référence et j'admire beaucoup cet homme parce que se faire accepter dans un clan de lions en Afrique, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que c'est toujours compliqué avec le mâle dominant, justement. Il y a des formes de respect qu'il faut connaître, et ce gars-là, il les connaissait, il a su les appliquer, il a même su approcher les petits.
Et autrement, tu t'engages dans des associations autour du thème des chats?
Récemment, je me suis engagée comme bénévole dans un refuge pour chiens et chats. C'est parce que j'avais des couvertures à donner, j'avais vu une annonce, j'ai contacté une personne et cette personne m'a emmenée au refuge et j'ai pu donner mes couvertures. Là, j'ai pu voir qu'il y avait des chiens et des chats. Encore là, j'ai été fascinée parce que la femme qui s'occupait du refuge a réussi à faire cohabiter les chats entre eux. J'aimerais bien y retourner pour savoir comment elle a réussi parce que ça aussi, c'est compliqué. Surtout cette manière de mâle dominant et tout ça, et j'aimerais beaucoup la revoir. Donc, je me suis engagée comme bénévole et je vais bientôt y retourner, j'espère.
Ouais, menace divin, Lancifer, détestable, oui, ma dans l'un ou l'autre, je dis vrai, alors ma frère, ça m'est égal, c'est un fait, menace après, tout simplement.
Qu'est-ce que c'est que le break dance, Mustapha?
Le breakdance fait partie des arts du hip-hop. C'est une pratique qui a commencé dans les années 70 dans les quartiers new-yorkais. À la base pratiquée par des afro-américains. Et c'est une danse qui se pratique généralement en solo sur un cercle qui est rythmé par une musique de rap, DJ ou hip-hop qui font eux-mêmes partie de l'art hip-hop. Le public forme un grand cercle autour des danseurs. Ces danseurs effectuent des mouvements plus ou moins acrobatiques, dépendant de leur vitesse ou de leur force physique, ou bien des enchaînements des mouvements. Il y a quelques mouvements qui sont plus ou moins connus. L'un d'eux s'appelle le Thomas. Alors c'est un mouvement qui consiste à tourner sur le dos. Le passe-passe, c'est quand on prend comme appui les mains et on fait tourner ses pieds en les faisant tourner ou c'est abstrait, on va dire. Et le running glide, c'est quand on prend comme appui une seule main et le corps doit être suspendu en l'air. Dans le breakdance, il existe des défis qui se pratiquent un contre un ou deux contre deux. Alors il y a des défis, il y en a eu un récemment qui s'appelle le Juste Debout, qui s'est déroulé à Lille. Les danseurs dansent chacun leur tour, mettant en avant leur meilleur mouvement. Avant de danser, le breakdancer doit s'échauffer avant de commencer ses enchaînements. Et le breakdance est souvent accompagné de musique ou de musique rythmée, accompagné par un DJ ou un MC, ce qui veut dire chanteur, dans le domaine du rap. Il y a quelques breakdancers qui sont à retenir et qui pour moi sont l'un des meilleurs. J'ai de Junior et Scott Wills, qui est en marque de la Red Pack.
Mais t'y allais, toi, ce défi dont tu parles à Lille?
Moi, j'ai pas eu l'occasion, mais le Juste Debout est un battle. Ça consiste à être quatre danseurs dans deux équipes différentes et qui s'affrontent dans la piste. Ils peuvent même faire preuve de provocation, mais sans les gestes.
Comment ça, provocation?
C'est largué en faisant quelques danses devant lui qui peuvent l'agacer.
Mais ça se passe où? C'est des entrées payantes? Ça s'organise comment? C'est battle, c'est comme les défis quand tu parles de battle.
Alors oui, les battles, c'est des défis en anglais.
Ça s'organise où?
C'était le samedi 21 février au Palais Saint-Sauveur à Lille. Et ça coûtait 9 euros. Mais Juste Debout, c'est pas juste à Lille. Ils font le tour de la France. Et ils viennent dans la plus grande ville de France pour recruter les meilleurs. Et,
Ouais, menace divin, lancez pas, détestable, oui, ma. Dans l'un ou l'autre, je dis vrai, alors ma frère. Ça m'est égal, c'est un fait, menace après. Tout simplement, les manques, les tassés. J'abreuve mes rêves, depuis un 9, 8, 8, du hip-hop, ici. Qui s'y France, s'y pique, rien à prouver. On va rouler chez. Tu fournais, c'est vrai, carré flow, on est des tarés mentaux, prêts à aller rentaux. Rambo, ça va pas, t'as pas les renforts, tu restes bouche bée pendant que moi je peux parler encore.
Et encore, encore.
Je suis pas le plus grand des savants, mais ce que j'ai suffit pour aller de l'avant. Pas le temps de m'amuser, saturer mon cerveau, cerveau virtuel, devenu habitué.
Flow, flow comme le cash, flow comme le beat, flow comme la calache, flow comme ma clique, carrément flow.
Pour le réalisateur japonais Miyazaki, Célestine, non ?
Hayao Miyazaki, c'est un réalisateur japonais de films d'animation. Il rencontre un grand succès au Japon depuis de nombreuses années et en France, il commence vraiment à se faire connaître en ce moment, notamment grâce au phénomène manga. Donc les mangas deviennent de plus en plus populaires et connus, ils sont de plus en plus répandus, mais aussi grâce aux différentes manifestations autour des thèmes de l'animation, notamment la Japan Expo à Paris ou bien la fête de l'animation à Lille. Et cette année, la fête de l'animation a pris Miyazaki comme un de ses thèmes principaux. Autre symbole de sa popularité, c'est qu'au Japon, à chaque fois qu'un de ses films sort, il enregistre des records d'audience. Et c'est pareil quand il passe à la télé, ça fait aussi des records. Alors, on pourrait se demander à quoi est due la popularité et la fidélité que les spectateurs accordent à ses œuvres. Comme j'ai vu tous ses films, je peux dire qu'ils sont variés, donc notamment par les thèmes, mais aussi par la façon de raconter. Il y en a certains qui sont vraiment des récits épiques, comme Princesse Mononoke, qui raconte un peu l'histoire d'un guerrier qui va explorer le monde et la forêt pour essayer d'échapper à une malédiction. Princesse Mononoke, c'est aussi un récit très engagé, très écologique. Et à mon avis, cet engagement de Miyazaki, c'est aussi une des raisons qui fait ces films si populaires et si appréciés. Donc il y a les films épiques et il y a également des films plus calmes et plus doux qui sont plus lents. Alors ça peut déplaire à certains ou bien moins plaire que les films épiques, mais il y a toujours la poésie qui est propre à Hayao Miyazaki, parce que ces films sont également appréciés vraiment pour la poésie qu'ils dégagent, notamment par les décors ou même les musiques qui sont de Joe Hisaishi. À mon avis, l'engagement et la poésie, c'est vraiment les deux choses qui font que ces œuvres sont vraiment appréciées, avec en plus l'intelligence avec laquelle il les met en place. Et aussi, ces personnages sont vraiment attachants. On s'attache vraiment à chacun des personnages quand on regarde les films. Maintenant, je vais vous présenter quelques autres films. Donc, en France, on connaît surtout le réalisateur et grâce au film Princesse Mononoke et Le Voyage de Chihiro. Mais il en a fait beaucoup d'autres avant, comme Le Château dans le ciel, Le Château de Cagliostro, qu'il a fait en coproduction quand il était plus jeune, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Porco Rosso, ou plus récemment Le Château ambulant. Et il a aussi également créé un manga, qui est Nausicaa de la Vallée du Vent. Il est publié en 7 tomes chez Glénat. Il est considéré par certains fans comme l'œuvre majeure de Miyazaki, parce que c'est également un récit épique et la réflexion est vraiment très forte. Il y a vraiment beaucoup de réflexions et on peut en tirer plein de conclusions. Il y a beaucoup de choses à apprendre en lisant ce manga. En fait, c'est situé dans un futur apocalyptique où est-ce que les humains ils sont contraints de vivre sur quelques terres reculées, mais en fait, on s'en rend compte que c'est vraiment des humains et tout, et il y a encore des guerres et tout ça. Et donc, du coup, c'est vraiment instructif. Il y a aussi un film qui vient de ce manga. D'ailleurs, Miyazaki voulait faire le film avant de faire le manga, mais
Au début, au Japon, ça se faisait pas de faire un film sans rien, sans manga, sans anime à côté. Donc, du coup, il a dû faire un manga. Et le film Nausicaa de la vallée du vent, qui porte le même titre, il est sorti il y a peu de temps sur nos écrans. Mais personnellement, je suis allée le voir en français et j'ai pas vraiment apprécié. J'aime beaucoup mieux la VO sous-titrée. Et je préfère le manga au film parce que le manga est plus complet. Et donc, je vous conseille vraiment ce réalisateur parce que c'est un des réalisateurs les plus connu du Japon. C'est impossible d'aimer les mangas sans le connaître. D'ailleurs, beaucoup de mangakas se sont inspirés de lui. On ne compte pas les allusions qu'il y a à ses films dans les mangas. Beaucoup d'auteurs se sont inspirés également. Et donc, si vous aimez le Japon, la culture japonaise, ou que même vous n'y connaissez rien, ou bien que ça ne vous intéresse tout simplement pas, je vous conseille tout de même, si vous en avez l'occasion, de regarder un de ces films, parce que vous verrez que c'est une autre ambiance et que c'est vraiment très intéressant et ça fait éprouver des sentiments et en plus c'est assez instructif.
Sofiane, je crois savoir que tu fais du foot et que tu es défenseur. Donc tu peux nous parler un petit peu de cette fonction et de ce rôle et du foot, et de ton amour du foot.
Je joue défenseur axial, numéro 5, et je joue à FIV. Mon rôle, c'est de couvrir la défense si les défenseurs latéraux sont débordés ou si une balle est lancée de loin. Je suis ici pour couvrir. Mon rôle aussi, c'est de remonter la défense quand on n'a pas la balle et de parler quand quelque chose ne va pas. Hier, on a vu le match France-Lituanie. Je joue dans l'axe comme Kidachi ou encore Galas, qui, je trouve, ont fait un bon match hier. Raymond Domenech a bien organisé ses joueurs. Il a joué avec 4 défenseurs et 2 6. Il a mis les 2 Diarra devant, en 6, les 4 défenseurs alignés derrière. Je trouve que hier, c'était un match qui jouait surtout entre les attaquants des deux équipes, parce que les deux défenses étaient bonnes. Et la France a su créer plus d'occasions, tout avec l'entrée de Benzema et de Gignac, qui a fait hier sa première sélection en équipe de France. C'est encore Ribéry qui a marqué, comme au match aller. Même si on n'a pas beaucoup vu Henry se marquer, il a été présent pour donner la passe à Gignac, qui a ensuite centré pour Ribéry. Je trouve qu'à 3, ils peuvent faire des choses. Il a fait sortir Gourcuff, il jouait devant les deux Diarra. Il a beaucoup apporté lui aussi, comme au match aller. Il a fait la passe décisive. Il a sorti parce qu'il était, ça se voyait, il était fatigué. Maintenant, si on revient à nos défenseurs, Axio, Skidachi et Galas, je trouve qu'ils ont bien géré la défense. Ils ont su faire la différence et ils ont assuré, quoi. Je crois que tu as réfléchi à l'utilisation du portable, de ton utilisation du portable et aussi à l'utilisation du portable en général. C'est ça, Cassandra ?
Oui. Donc en fait, j'ai fait une sorte d'évaluation sur le nombre d'heures que les élèves du lycée Montebello utilisent leur portable. Je me suis rendu compte que le nombre d'heures se rapprochait beaucoup par rapport au nombre que moi j'utilisais aussi. J'ai aussi évalué les dangers et les risques du portable en regardant sur Internet les diverses études scientifiques qui ont été faites. Il y en a une quarantaine d'études qui ont été faites et elles ont commencé en janvier 91. Au début, c'était sur les radiofréquences. Et puis ensuite, ça a dévié sur le micro-ondes, parce qu'il y a une période où on pensait aussi qu'il était dangereux. Mmh. Aujourd'hui, le micro-ondes bénéficie d'une paroi dans la porte qui piège les ondes, donc maintenant c'est plus dangereux. Mmh. Et ensuite, ça a dévié sur les portables. Et sur les portables, il y en a énormément qui ont été faites. Je dirais que sur les 40 études qui ont été faites, sur les portables, il devrait y en avoir au moins une trentaine. Tout le monde se sent concerné dans le monde entier. Donc il y en a qui ont été faites en Australie, aux États-Unis, en Suède, en France aussi. J'avais lu, il me semble, une étude qui avait été faite en Israël sur 300 personnes dans un certain laps de temps. Donc je pense que c'était de 2003 à 2004. Il y a aussi une étude qui a été faite dans une clinique indo-américaine sur les dangers du portable qui pourraient être liés à une infertilité chez les hommes.
Liés ou qui pourraient créer une infertilité
qui
chez les
hommes créer, oui. Qui pourraient créer une infertilité chez les hommes. Et ensuite, il y a eu des rapports scientifiques. Donc il y en a eu une dizaine à peu près. Donc des rapports australiens, preuves scientifiques définitives sur les dangers du portable. Donc il y a le rapport Bioinitiative qui date de 31 septembre 2007. Il y a eu un rapport réflexe de l'Union européenne qui date de 2000 ou 2004. Il y a des rapports hollandais aussi. À ce stade, on pourrait dire qu'après toutes les études qui ont été faites, que le portable est dangereux. Ce qu'il y a, c'est que les gens préfèrent nier l'évidence. Pour se rassurer peut-être. Et les précautions ne sont pas toujours prises.
Mais quels sont les dangers du portable ?
Il pourrait y avoir par exemple des dangers au niveau du cerveau. Alors la personne pourrait avoir des pertes de mémoire. Enfin, il y a une étude aussi qui a été faite qui pourrait montrer qu'aussi ça pourrait être lié à l'Alzheimer. Ça pourrait provoquer des cancers de glandes salivaires parce qu'elles se situent près de la mâchoire et donc près de l'oreille. Ils disent qu'une utilisation trop fréquente pourrait causer ce genre de tumeur. Mais ce serait que des tumeurs bénignes, en fait. Donc, ils sont soignés, mais une tumeur, ça finit toujours revenir aussi. Aussi, sur la fertilité, c'est remis en question. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question.
Réellement prouvé,
oui.
Il y a encore des doutes,
oui. Les gens font pas vraiment confiance à ces études-là. C'est pas encore prouvé totalement.
Et tu parlais tout à l'heure des heures avec le portable. Alors, dis-moi un peu, toi, comment tu utilises ton portable? Quand à quel moment de la journée? Combien de temps?
Moi, j'utilise plutôt le soir. J'utilise environ 2 à 3 heures. C'est le chiffre que j'ai évalué sur les lycéens du lycée Montebello. Presque tout le monde utilise 2 à 3 heures. Dort avec, l'éteint pas souvent. Le charge la nuit aussi. Le portable, il fait partie quotidiennement de la vie, en fait.
Mais comme tu dis 2-3 heures, c'est 2-3 heures de communication téléphonique ou sur les 2-3 heures, tu comptes aussi l'écoute de musique ou regarder des photos qui ont été téléchargées sur son portable, etc.
Pour moi, 2-3 heures, communication téléphonique. Donc après, ça peut diversifier parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent de la musique. Il y en a beaucoup qui préfèrent plutôt les SMS. Donc ils vont moins téléphoner. Le portable est beaucoup plus dangereux quand on l'approche près de l'oreille lors d'une communication. Donc c'est-à-dire que si on va utiliser le kit main libre, il va être moins dangereux, il va être moins néfaste. Si on écrit des SMS, ça va être moins dangereux aussi. Le portable est plus dangereux lors des communications téléphoniques. Et si elle surpasse les 1 heure, ça peut être très dangereux, mais au bout d'un certain nombre d'années. On a évalué ça sur une période de 10 ans. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des tumeurs, mais c'est toujours pas certifié que c'est à cause du portable. Parce que les tumeurs peuvent être liées à des tas d'autres choses, en fait.
Et ça te fait pas peur ?
En fait, ça fait peur à personne parce que on a pris des habitudes, c'est-à-dire utiliser le portable régulièrement. Ces scientifiques ont été prises au sérieux un peu trop tard. Donc les gens, on a beau leur dire que c'est dangereux, mais il est trop tard. Les habitudes ont été prises avant et on a du mal à s'en débarrasser. C'est comme la cigarette ou l'alcool.
D'accord, on va écouter tes interviews. Merci.
Alors, qu'est-ce que vous pensez du téléphone portable ? Combien de temps vous l'utilisez par jour ?
Moi, je l'utilise pas souvent. C'est souvent les SMS, donc c'est pas vraiment le téléphone. Mmh. Après, le fait que ce soit dangereux, c'est pas trop mon souci. Je m'en fiche un peu, en fait.
Je l'utilise pas beaucoup, je suis beaucoup économe.
D'accord. Et j'appelle jamais avec mon téléphone portable. Par contre, il reste allumé dans ma poche, ce qui est assez dangereux quant à la production de spermatozoïdes.
Est-ce que vous pensez que c'est dangereux ou pas ?
Non. Ouais. Non, je pense pas.
Pour nous, non ? Pour les êtres ?
Ah. C'est dangereux pour tout le monde. Oui. C'est dangereux pour les hommes et les femmes, par exemple. Pour les ondes, même ça altère le cerveau, donc ça altère tout. Donc c'est dangereux.
Et vous prenez des précautions particulières ou pas ?
Ah non, pas du tout.
Non plus.
Quand j'appelle, je prends mon portable, je décroche ou j'appelle, mais je prends pas... je colle pas le portable à un mètre ou le haut-parleur. Non, j'appelle, c'est tout.
Quand je dors, de temps en temps, quand j'y pense, je l'éteins. Parce que c'est à côté de ma tête et c'est dangereux.
Je dirais environ, en tout, 2 à 3 heures par jour. Pour appeler des amis ou en cas de besoin, c'est super important, mais je pense que je pourrais m'en passer. Ben, je pense que tant qu'on l'utilise pas trop souvent et que ça devient pas excessif, je pense qu'il n'y a pas de réel danger, même si, je sais plus, j'avais vu une émission comme quoi il y a des ondes par rapport au portable. Mais oui, je pense qu'ils sont réels et qu'il faut savoir se limiter dans le temps. Je dois dire que je dors avec mon portable en dessous de mon oreiller, donc c'est pas vraiment une précaution, mais je fais pas trop attention.
Toute la journée tant que je dors pas.
Et moi toute la journée quand je dors pas.
Bah, jusqu'à présent, comme nous on n'a pas eu de problème, on sait pas, mais on ne dit pas que c'est pas possible, que ça fasse pas de...
Voilà, on évite de...
On évite rien. On évite rien, on n'écoute pas parce qu'on est trop accro. On dort avec, on mange avec, on se lave avec.
Voilà, on va aux toilettes avec tout.
Une heure ?
Deux, trois heures.
Pour les moins de 12 ans, ça a été prouvé, donc en quoi ?
Moi, pas tellement. Enfin, si, c'est dangereux, mais je m'en fous un peu, quoi. Je l'éteins avant de dormir.
Ah, l'oreillette, parfois. Pour éviter de l'avoir près de l'oreille directement.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
Je crois que t'es un peu artiste, Marie.
Ouais, en fait, ça fait bientôt plus de 6 ans que je fais de la peinture, de la sculpture ou du dessin, tout simplement. En fait, même si prof, avant, ils m'ont dit « c'est pas que t'as pas de talent, mais bon, t'es pas vraiment doué », mais que mon originalité, elle faisait que ça, c'était bien, je continue. Donc j'ai continué, et c'est vrai que même cette année, j'ai le droit au même discours. C'est « bon, tu sais peut-être pas aussi bien dessiner que certains y peuvent, mais au moins, quand on te donne un sujet, tu trouves tout de suite ce qu'il faut faire et tu le fais bien. » Donc voilà. Sinon, je me suis rendu compte que en retrouvant certaines toiles, parce que je peins beaucoup plus que je peux dessiner ou sculpter, j'ai retrouvé des toiles et je me suis rendu compte que selon le moment, enfin ce que je pouvais vivre ou ressentir, ça se voyait fort dans les peintures. Comme j'ai commencé à cause d'un problème personnel, et c'était une sorte de thérapie, et en les retrouvant, je me suis rendu compte qu'elles étaient vraiment sombres, et tellement j'appuyais fort avec le pinceau que quand on la retourne, on voit vraiment qu'elle est déformée, donc que maintenant elles sont pas lisses, mais sont vraiment moins abîmées, plus colorées. Ça fait plaisir à voir que ça change. Donc quand j'étais à l'école, c'était juste les cours, sinon j'ai jamais pris de cours en dehors, j'ai jamais été dans des associations, même si on me l'a déjà proposé, mais comme je me dis que mes bonhommes, c'est plus des pendus, donc c'est un rond avec des traits que ce que les filles, certaines filles peuvent faire, vraiment des beaux dessins, des beaux personnages, je me dis ça sert à rien, c'est comme je voulais rentrer à l'école artistique, à l'ESSAT, et je me suis dit, ça sert à rien, c'était pas vraiment doué sur le dessin, donc je me suis dit que ça allait être un passe-temps plus qu'autre chose, et c'est ce que c'est devenu.
Et d'un point de vue des techniques, qu'est-ce que tu utilises comme peinture, comme support ?
Les supports, c'est souvent des toiles qu'on trouve un peu partout. Ça m'arrive d'en acheter plus de 10, comme ça, juste tranquille. Ou je peux en utiliser 10 en un mois, parce que ça dépend vraiment de ce que je peux vivre en général. Mais les techniques, j'en ai pas vraiment, en fait. Par exemple, je prends toutes les peintures, que ce soit l'huile, l'acrylique. Je les mélange pas, mais les couleurs, je peux les mélanger. Je les mets tous sur la palette, je mélange pour faire les couleurs, mes propres couleurs. Et après, je les étale et après, ça... Si ça rend bien, tant mieux. Sinon, tant pis, je recommence. Et c'est comme ça que je fonctionne.
Est-ce que tu pourrais me décrire ta dernière toile, le plus précisément possible ?
Mon pinceau, je l'ai mis au milieu de la toile. Et après, j'ai tout estampé la couleur. Et à chaque fois, je changeais de couleur par geste. Donc en fait, ça me fait une fleur assez étrange de toutes les couleurs.
Tu as l'air de dire que tu n'as pas de technique, mais tu fais quand même l'option art plastique. Donc tu apprends des choses aussi d'un point de vue technique.
Oui, enfin on étudie, y a toujours l'heure de culture. Donc là on voit des œuvres. C'est vrai que ça peut m'aider, mais on n'apprend pas vraiment comment bien dessiner. Ça, de toute façon chacun a son propre style. C'est vrai que ça aide beaucoup de venir faire des cours et ça donne de l'inspiration. Mais les techniques, j'en ai vraiment pas.
Et tu penses à un métier autour de l'art ?
Non, je me voyais plus dans une autre branche.
Tu penses ?
C'est plus dans l'import-export, donc c'est vraiment... Il n'y a aucun rapport.
Donc tu voudrais continuer pour le plaisir seulement ?
Voilà, ce sera juste mon passe-temps ou mon hobby. C'est... c'est tout.
Tu n'as pas dit dans quelles conditions t'aimais peindre?
Souvent, j'en profite quand je suis toute seule chez moi. Ou alors je m'enferme dans ma chambre, je prends mon MP3 et c'est souvent du jazz. Ou, enfin, ça peut être n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est plus souvent du jazz. Comme Chet Baker, par exemple. C'est vrai que j'aime beaucoup écouter certains de ses morceaux, donc ouais. C'est ça ou du classique. Et j'ai pas vraiment de style, mais j'écoute de tout. Mais c'est vrai que c'est plus souvent du jazz et du classique pour peindre.
Donc tu vas nous faire écouter un petit morceau de Chet Baker.
Voilà. Et c'est My Funny Valentine.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is valid.